Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Jocelyne Moussaou Pomde.
Le journaliste Stanis Boujakera pourrait sortir de prison ce mardi. Arrêté le 8 septembre 2023, il a purgé sa peine de 6 mois de servitude pénale prononcée hier lundi. Son avocat désapprouve cette condamnation. Relance du programme sino-congolais, un nouveau départ dans la gestion harmonieuse des activités de cette coopération. Propos du Premier ministre hier lors de la cérémonie de lancement. Jean-Michel Samalou Kondé recommande aux deux parties un engagement fort pour le bien-être des Congolais. L'invité de ce journal est Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains. Il parlera de son ouvrage intitulé « Aide mémoire à l'usage du praticien du droit pénal vert en matière de faune et flore sauvage en RDC ». Bonjour à tous. Le journaliste Stanis Boujakera pourrait sortir de prison ce mardi. Il a été condamné hier lundi à 6 mois de servitude pénale. Stanis Boujakera a été reconnu coupable de falsification, contrefaçon et faux en écriture au sujet d'un rapport attribué à l'Agence nationale des renseignements, ANR, sur la mort de Chérubin Okindé, ancien ministre des Transports et député national. Sa condamnation est assortie d'une amende d'1 million de francs congolais avec des circonstances atténuantes. Arrêté le 8 septembre, le journaliste d'actualité.cd et de Jeune Afrique a déjà purgé sa peine et comme le ministère public n'a pas fait appel, il peut sortir de la prison aujourd'hui. On écoute la réaction de son avocat qui désapprouve cette condamnation qualifiée de regrettable. Maître Charles Mouchizi est au micro de Jeff Ngoy.
Le journaliste a passé déjà 6 mois en détention. La loi lui donne la possibilité de faire cette computation de délai en reprenant sa liberté immédiatement après les 6 mois parce qu'il a été condamné aussi à 6 mois. Et donc, n'empêche, il aura écopé d'une condamnation qui est regrettable, qui aurait pu être évitée parce qu'en plus, le rapport de l'expert désigné nommément par le tribunal n'a pas su démontrer le lien direct qu'il y aurait entre mon client Stanis Boujakera et la note confidentielle sur base de laquelle toute l'accusation s'est échafaudée malheureusement de la manière la plus maladroite. Ce qu'il faut faire à mon avis c'est d'obtenir la libération du journaliste du lieu où il est maintenant et voir si dans l'avenir le plus proche il pourra faire son appel au cas où il le souhaite bien.
Invalidation des candidats à la mission électorale. Regard citoyen recommande à la Cour constitutionnelle de mettre à la disposition des candidats invalidés toutes les décisions rendues par elle afin de permettre à chacun de connaître les raisons qui ont conduit soit au rejet du recours, soit à son invalidation. Dans une conférence de presse hier lundi à Kinshasa, Paul Kabea, porte-parole de cette mission électorale, explique cette démarche par le fait que les décisions rendues par cette Cour ont provoqué des réactions diverses au sein de l'opinion. Paul Kabea le dit à Paul Matendo.
Regard citoyen rappelle aux candidats qui estiment que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle contiennent des erreurs matérielles qu'ils peuvent introduire des recours en rectification d'erreurs matérielles conformément aux dispositions de l'article 74 quinquet de la loi électorale. Ceci pourrait s'appliquer à la forclusion, étant donné la non-prise en compte des dates des 16 et 17 janvier 2024 dans les délais des recours. La MOE Regard Citoyen recommande à la Cour constitutionnelle de mettre à la disposition des candidats invalidés et de publier dans les meilleurs délais toutes les décisions rendues par elle pour permettre à chacun de connaître les raisons qui ont conduit soit au rejet du recours, soit à l'invalidation d'un élu.
Dans le même chapitre, des centaines de jeunes ont manifesté hier lundi sur quelques artères de la ville de Kisangani. Ils dénoncent les invalidations éventuelles de certains députés provinciaux proclamés vainqueurs par la CENI lors de la publication des résultats provisoires. Cette prétendue tentative d'invalidation serait commanditée, selon eux, par certains candidats malheureux aux dernières élections provinciales. Le point avec Jacques Mkonkolé.
Cette démarche est partie du rond-point Maélé pour aboutir à la cour d'appel en passant par les gouvernorats des provinces. Les manifestants arboraient des calicots et affiches qui dénoncent des manœuvres tendant à invalider les vrais élus proclamés par la CENI au profit des candidats malheureux selon leurs propres termes. Ils demandent donc à la cour de respecter la volonté du peuple. Un manifestant exprime à la fois leur inquiétude ainsi que leur souhait.
Nous redoutons tout simplement le fait que certains qui ont été élus par la population soient invalidés. Au fond, on sait que ce sont des candidats qui ont été portés par la population. Alors la population veut en sait que ces mêmes élus-là représentent la province de la Tchopo.
Le premier président de la cour d'appel promet aux manifestants de ne dire que le droit. Rappelons que la cour examine depuis quelques semaines les requêtes introduites par certains candidats ayant rejeté les résultats proclamés par la CENI et qui ne leur sont pas favorables. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La relance du programme sino-congolais doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse des activités dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre hier lundi à Kinshasa. Jean-Michel Samalukonde l'a dit lors de la cérémonie officielle du lancement du programme sino-congolais dont la renégociation est intervenue la semaine dernière. Écoutez le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde dans ses propos recueillis par Paul Matendo.
Cette renégociation marque un nouveau tournant pour la relance des activités du programme sino-congolais et recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays. Et je recommande à la PCSC de s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration et en multiplier, bien sûr, en tenant compte de l'accompagnement de toutes les parties prenantes. Ceci nécessite que la PCSC puisse pleinement de toutes ses prérogatives jouir vis-à-vis des partenaires concernés. Cette relance voulue par le chef de l'État doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse du programme sino-congolais, dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général et de qualité, et ce qui implique une gestion efficiente qui en découle.
Et puisque nous parlons des infrastructures, parlons de cet affaissement de cet immeuble en construction hier à Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa annonce avoir instruit ses services de prendre des dispositions pour démolir ces bâtiments en construction. C'est sur l'avenue Kilolo Lusamba, ex-Malemba Nkulu, près du rond-point Safrikas, dans la commune de La Gombe. Jean-Tini Ngobila l'a dit hier lundi lors de son passage sur les lieux de l'accident. Il a par ailleurs chargé la chef de quartier de recueillir les informations sur les propriétaires de ce bâtiment. Il a également dédouané ses services car au-delà d'un étage, c'est le gouvernement central, par le biais du ministère de l'Urbanisme, qui accorde les autorisations, notamment celle de bâtir. Suivez Jean-Tini Ngobila dans cet extrait choisi par Babel Pongo Massimango.
Nous sommes arrivés constater le fait. C'est un bâtiment de plus de 8 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 8 étages. Le rez-de-chaussée ainsi que les deux premiers niveaux sont enfouis déjà sous terre. Visiblement, le bâtiment ne présente pas de fissures, mais il faut nécessairement les démolir pour éviter qu'il y ait d'autres accidents par après. Et jusque-là, nous ne connaissons pas les propriétaires, les ingénieurs ainsi que les ouvriers qui travaillaient dans le chantier. Ils ont tous fui. Nous avons chargé notre chef de quartier. Cette maman, c'est elle qui va donc nous fournir des éléments, nous donner notamment les coordonnées des responsables des chantiers ainsi que les propriétaires du bâtiment. La ville se limite à donner les autorisations de bâtir pour des bâtiments de rez-de-chaussée plus un seul niveau. Au-delà, c'est le gouvernement central, notamment le ministère de l'Urbanisme. Et comme ça se passe dans notre ville, nous sommes obligés de suivre. Et là, j'ai demandé à mes services de prendre des dispositions pour démolir complètement ces bâtiments ici. Les techniciens savent comment ils font.
L'effondrement de cet immeuble relance donc le débat sur la problématique des constructions dans la ville de Kinshasa. Plusieurs immeubles sortent des terres dans presque toutes les communes, chacun voulant rentabiliser son espace, aussi petit soit-il, avec possibilité d'y faire louer des locaux. Parlons sécurité à présent. Au Nord Kivu, au moins 12 bombes larguées par les rebelles du M23 sont tombées hier lundi à Moubambiro, causant un mort et au moins 5 blessés parmi les civils. C'était selon plusieurs sources jointes sur place lors des affrontements qui ont opposé toute la journée les rebelles du M23 aux FRDC et groupes armés. Ces sources précisent que ces bombes sont tombées les unes sur et autour des positions de l'armée, d'autres sur la base des casques bleus de la MONUSCO, toujours à Moubambiro. Aucun bilan côté armée n'est encore rendu public. Rappelons que ces combats qui ont éclaté autour de 4 heures du matin hier lundi se sont poursuivis jusqu'en début d'après-midi dans les environs de Sake et de Chacha. Toujours au Nord-Kivu, l'armée salue l'accompagnement de ses partenaires qui travaillent dur pour mettre fin à l'activisme des groupes armés qui occupent une large partie de la province, notamment les territoires de Rutshuru, Masisi et Lubero. Selon le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, qui revient d'une mission opérationnelle dans cette zone, parmi les partenaires figurent les forces de la MONUSCO, les soldats ougandais ainsi que les jeunes appelés Wazalendo qui appuient l'armée. Ils demandent à la population des soutenir ses partenaires afin de freiner la menace de ces rebelles. Le capitaine Anthony Molushai est au micro de Marc Marofimbo.
Dans les petits nord là où nous venons, nous avons vu qu'il y a certains de nos compatriotes appelés communément Wazalendo qui travaillent bien sûr côté FRDC et qui nous aident vraiment à défendre ces pays. À toi, ce sont des jeunes à encourager. Personnellement, je les ai encouragés, mais il y a toujours les vrais et les faux. Il y a d'autres qui continuent à donner aussi main forte à l'ennemi. Et aussi, n'oublie pas que parmi nos partenaires, détail, il y a aussi la MONUSCO qui nous aide, que ce soit dans les grands ou dans les petits nord, à travailler du côté, à mettre fin aux activismes des groupes armés. En tout cas, ce sont nos partenaires que nous devons féliciter, encourager. Et je demande aussi à la population d'être derrière nos partenaires pour qu'ensemble, on mette fin à l'insécurité dans notre zone qui n'a que trop duré. Là, je n'oublie pas aussi l'armée ougandaise qui fait un bon travail maintenant à l'ouest de la RN4.
Restons dans cette province où plusieurs villages et cités du territoire de Lubero sont surpeuplés par des déplacés qui fuient les combats entre les FRDC et les rebelles du M23 dans le territoire voisin de Rutshuru. Dans un rapport de monitoring publié le week-end de l'ONG locale Kijiji Chahamani, traduisait îlot de paix, travaillant dans le domaine de protection, parle d'une situation catastrophique de ces déplacés parmi lesquels des femmes et enfants. Martial Papimoukeba pour les détails.
Dans son rapport, l'ONG Kijiji Chahamani dit qu'à ce jour, la zone de santé de Kaina a accueilli 50 000 ménages de déplacés. Ils sont hébergés dans les cités et villages de Kanyabayonga, Kaina, Bulotwa, Mihobwe, Luofu, Kataro, Kalevia et Kirumba. La commune rurale de Kanyabayonga héberge à elle seule 30 000 déplacés, dont au moins 20 000 arrivés récemment dans la zone à la suite de l'intensification des combats entre les FRDC et rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. Selon l'ONG Kijiji Chahamani, la plupart de ces déplacés vivent dans des familles d'accueil, les églises et certaines écoles où ils partagent les salles de classe avec les élèves. Leurs mauvaises conditions de vie exposent les femmes déplacées aux violences de toutes sortes, y compris à l'exploitation sexuelle. D'après cette organisation locale, ces déplacés expriment un besoin urgent en abri, nourriture, installation sanitaire, soins de santé primaire ainsi qu'en eau potable. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale. Tension entre l'Algérie et le Maroc suite à un projet de confiscation des biens immobiliers. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont coupées depuis 2021 et les frontières sont depuis lors fermées. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de tension entre Alger et Rabat qui se dessine. L'Algérie dénonce des provocations après la publication le 13 mars dernier dans le journal officiel marocain d'un projet de décret annonçant l'expropriation des biens immobiliers nécessaire à l'élargissement du bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Rabat. Il s'agit là des trois bâtiments voisins qui sont la propriété de l'ambassade algérienne à Rabat. Israël va envoyer une délégation à Washington pour évoquer les désaccords autour de Rafah. Joe Biden considère qu'une offensive terrestre majeure de l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, serait une erreur, et il a obtenu la venue à Washington d'une délégation israélienne pour en parler, selon son conseiller à la sécurité nationale. Le président américain a dit au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu être profondément inquiet à ces sujets. Une opération militaire d'envergure contre Rafah conduirait à plus de victimes innocentes, aggraverait la situation humanitaire déjà grave, renforcerait l'anarchie à Gaza et isolerait encore plus Israël sur la scène internationale, a déclaré le conseiller.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons comme invité Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains. Il nous parle de son ouvrage intitulé « Aide-mémoire à l'usage du praticien du droit pénal vert en matière de faune et flore sauvage en RDC ». Ce livre a été publié fin 2023 aux éditions L'Harmattan. L'essentiel de cette recherche dans cet entretien que Maître Ndolé a accordé à Bernardin Nyangui.
Maître Olivier Ndolé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de publier ce livre intitulé « Aide-mémoire à l'usage du praticien du droit pénal vert en matière de faune et flore sauvage ». Pourquoi « Aide-mémoire » ?
Comme vous le savez, il y a cette problématique par rapport à l'accès à l'information législative, mais aussi judiciaire de manière globale, par rapport à toutes les législations qui existent en matière de protection et sauvegarde de la faune et flore sauvage d'une part, mais aussi par rapport à la compétence judiciaire, par rapport à l'engagement des poursuites en matière de lutte contre la criminalité faunique. Voilà pourquoi, à travers l'expérience déjà acquise par les avocats verts, il a été jugé efficace de voir comment condenser les dispositions légales qui existent, mettre à la disposition des praticiens sur cet outil, mais également aussi c'est un outil qui devra donc servir en termes, si vous voulez, d'orientation, de réforme dans les secteurs du domaine public judiciaire pour ce qui concerne la protection de la faune et flore sauvage.
Et quand vous parlez de la faune et flore sauvage, c'est de toute l'étendue de la République démocratique du Congo ou bien une zone particulière comme la zone de Virunga?
Non, parce que comme vous le savez, les lois sont beaucoup plus à caractère, si vous voulez, général. Toutes les dispositions applicables, que ce soit dans les parcs nationaux de Virunga, que ce soit en dehors du cadre de la conservation de la nature, notamment par exemple quand on cite certaines dispositions du statut de Rome, du code pénal congolais qui protège même des plantes et qui érige même en infraction, par exemple, les trafics illicites, les blanchiments. Il s'agit vraiment d'un arsenal beaucoup plus élargi et qui prend à compte cet aspect de lutte contre la criminalité faunique et florique de manière globale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et je pense que c'est déjà un outil qui va servir pour les OPJ, par exemple, pour les magistrats et pourquoi pas même pour les défenseurs de l'environnement EVRA dans les secteurs de la faune et flore sauvage pour s'y référer par rapport au suivi de l'application des lois dans ces secteurs-là.
C'est en fait un livre de un peu plus de 160 pages avec 3 chapitres. Ouais. Et au premier chapitre, déjà, vous parlez de protection juridique et judiciaire de la faune et de la flore en RDC. Est-ce qu'il y a un problème avec le texte juridique?
Évidemment, comme vous le savez, nous avons, on peut même dire qu'il y a une inflation législative au niveau de la RDC, mais il se trouve qu'il y a un problème par rapport à la maîtrise même du cadre légal par ceux qui sont censés appliquer les lois. Donc, vous trouverez que la plupart d'infractions qu'on retrouve, par exemple, devant les OPJ, devant les ministères publics, ce sont des infractions d'autres natures, par exemple, les vols et autres destructions méchantes. Mais sont rares les infractions liées à la conservation, liées à la biodiversité, qui sont portées par devant les ministères publics. Et donc, déjà, nous avons posé les fondamentaux par rapport à la législation congolaise, par rapport à cette protection, notamment au niveau de la Constitution, par exemple, qui pose déjà les principes par rapport au caractère inaliénable de la faune et flore sauvage, mais aussi les autres textes qui donnent la latitude, par exemple, à des organisations ou à des communautés de saisir ou de se constituer partie civile lorsqu'il s'agit des infractions liées à l'environnement et la faune et flore sauvage.
On va terminer par cette question ici, au troisième chapitre. Vous insistez beaucoup sur le plaidoyer pour la connaissance des mécanismes juridiques par les praticiens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains praticiens, peut-être, qui ont ce déficit-là de connaissance de ce mécanisme.
Nous avons compris, ensemble avec même les praticiens, parce qu'il y a quand même une cellule qui a été créée ici, des magistrats chargés de l'application de la loi en matière de la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre la criminalité phonique. Et on a compris que, comme il n'y a pas de spécialisation en droit congolais dans les mécanismes opérationnels, c'était donc difficile pour certains magistrats de savoir qu'il existe telle disposition ou telle disposition. Et tous ces éléments-là nous ont conduit à dire qu'au-delà d'appliquer la loi pour punir les contrevenants, il faut aussi mener un plaidoyer pour le renforcement, si vous voulez, non seulement des capacités des acteurs judiciaires censés d'appliquer ces lois-là, mais aussi la mobilisation communautaire pour comprendre que les lois existent. Il appartient à des communautés, à des avocats et à des magistrats de dire ces droits-là qui existent pour protéger cette faune-là, pour que nous puissions avoir une justice climatique.
Maître Olivier Ndolé, merci.
Merci à vous Bernard Danyangui et merci à Maître Ndolé. Votre entretien met fin à ce journal. Il a été mis en onde par Paul Badianyama. À vous chers auditeurs, merci de l'avoir suivi.